Bonjour Nolwenn Leroy.
Bonjour Éric Bastien.
Comment ça va Nolwenn Leroy? C'est toujours plaisir de voir votre sourire, de voir votre joli visage qui s'illumine. Et c'est toujours un plaisir de vous croiser. Et on va se dire tu, parce qu'on va le dire aux auditeurs de France Bleu, mais aussi à tous ceux et celles qui suivront l'ensemble de cet entretien en podcast sur francebleu.fr. Voilà, on se connaît bien et depuis longtemps.
Depuis très longtemps.
On s'est connus avant que... Tout commence, je parle au
bien
niveau
avant.
Professionnel pour toi. Voilà, ça va être l'occasion aussi pour moi de découvrir des choses que je ne connais peut-être pas. On va retracer une partie de ta carrière par le biais aussi de Paris. Alors, tu n'es pas parisienne.
Non.
Un parisien sur deux ne l'est pas, on l'a dit. Tu es bretonne.
Oui.
Tu es née du côté de Kersimple-Abénec, tu es finistérienne, hein, c'est ça?
Totalement, finistérienne et puis un peu auvergnate aussi, comme tu le sais.
Voilà.
N'est-ce pas?
Tu es arrivée à l'âge de 10 ans en Auvergne, mais avant d'arriver en Auvergne, vers l'âge de 10 ans, tu as eu un passage quand même en Île-de-France.
Oui, effectivement, parce que à l'époque, mon père avait un métier qui l'obligeait à déménager beaucoup.
Tu es footballeur.
Absolument, et c'est vrai que j'ai toujours été une petite fille qui était un peu, enfin toujours un peu déracinée en fait. Je commençais à l'école, on restait un ou deux ans, puis après on partait, lui dans un autre club et moi dans une autre école. Finalement, ça a été une chance parce que j'ai toujours appris à me faire de nouveaux amis et puis à découvrir de nouveaux endroits. C'est pour ça que j'adore partir à la découverte de nouveaux lieux. Et je suis pas, enfin, tant que ça attachée aux choses, aux objets, je suis attachée aux gens avant tout. Mais j'adore, les lieux, c'est voilà, j'adore finalement à chaque fois démarrer quelque chose de nouveau quelque part. Enfin, j'ai pas d'angoisse à ce niveau-là et c'est un vrai vrai plaisir. Vraiment.
Alors ce déracinement, il y a eu donc la Bretagne, ça c'est les origines, c'est la famille, c'est les débuts, c'est la petite fille dans la campagne, dans la forêt, dans le foin.
Oui.
On le voit sur des pochettes d'albums aussi. Il y a eu l'Île-de-France, il y a eu Lille, il y a eu l'Auvergne où vit encore d'ailleurs ta maman et ta grand-mère. Tu y retournes d'ailleurs
le
de
Bourbonnais.
Temps en temps. Exactement, le Bourbonnais.
Ouais.
Je reviens sur Paris. Quelle image tu avais quand tu étais peut-être soit en Bretagne, soit en Auvergne, de Paris, la capitale?
Paris, c'est la magie. Hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que lorsque l'on est en province, Paris, c'était ma petite. C'est vrai que lorsque j'ai vécu à Paris, moi, je vivais en région parisienne, donc c'était vraiment Paris. Enfin, je connaissais pas si bien Paris, enfin intramuros. C'était plus par mes voyages ou les week-ends ou les moments de vacances que je pouvais passer chez mon grand-oncle et ma grand-tante qui habitaient Villeneuve-Saint-Georges.
Mmh.
Et à chaque fois, on prenait le RER là-bas à Villeneuve et on passait les journées à Paris. Mais c'était plus sur le tard que j'ai découvert Paris, en fait. J'ai pas vraiment d'énormes souvenirs d'enfance
à Paris. C'était quand même toute petite, c'est à ce moment-là.
Oh, j'étais petite, mais ouais, mais c'est. Enfin, les vrais souvenirs de Paris, c'est un peu plus tard, finalement. J'ai pas eu vraiment une image de l'enfance où je vois la Tour Eiffel. Et pourtant, je venais à Paris, mais je sais pas, c'était pas. Quand je ferme les yeux, que je repense vraiment à mon enfance et à l'image que je porte Paris, il n'y a rien vraiment qui me vient. C'est arrivé plus sur le tard, lorsque j'étais au collège et que là, c'était vraiment le plaisir de tout ce que Paris offre, en fait. Aussi bien au niveau culturel que tout ce que l'on attend et tout ce dont on a besoin, tout ce dont on se nourrit lorsque l'on commence à grandir. Et c'est là où Paris devient intéressant, parce que moi je dis toujours que, enfin je pense sincèrement que aujourd'hui, maintenant que je vis à Paris, que Paris c'est un peu inhumain pour les enfants, les petits et pour les personnes âgées. Je trouve que c'est pas une ville qui est faite pour les tout petits et lorsque l'on est âgé aussi, c'est un peu dur quand même. Paris c'est fabuleux quand t'es jeune et tu veux faire plein de trucs et t'as toute ce choix, cette possibilité infinie de donc voilà, petite, c'est à ce moment-là, voilà, au collège où là j'arrivais à Paris, quand je rendais visite à ma grand-tante, mon grand-oncle, là je me dis oh là là, mais quel bonheur, mais on allait voir les musées, on allait faire les boutiques, on allait voir les expos, on allait les concerts, c'était le rêve. Alors, c'est le rêve, Paris.
Paris, tu découvres donc effectivement davantage au moment du collège, comme tu dis. Et puis alors, quand on arrive au lycée, allez, à peine quelques années plus tard, ou tout doucement vers la fac, hein, puisque tu vas aller en faculté de droit américain.
En fac de droit, option droit anglo-américain.
Ouais, droit anglo-américain.
Ouais.
T'es fasciné, je crois, par, si je ne dis pas de bêtises, par un Amanda Altaï à ce moment-là.
Oui.
Et tu t'inscris à tes cours assez court.
Ben oui, parce qu'en fait, j'avais regardé l'émission à l'époque qui m'a révélée au public. Et moi, parallèlement, effectivement, j'étais à la fac, j'étais au conservatoire aussi, en chant classique, à Vichy et à Clermont-Ferrand, au CNR. Et j'avais découvert Armande et je me disais que ça serait bien de, à côté de ma formation classique, peut-être d'aller voir ailleurs, d'avoir les conseils de quelqu'un qui venait vraiment d'un autre monde. Et j'ai trouvé sa méthode.
Un côté fantasque, un vrai personnage qui te correspond.
Totalement. Et puis, rock'n'roll. Ouais. Et à la fois, elle me fascinait par sa vie d'artiste aussi. Et puis, sa façon aussi d'enseigner le chant, sa méthode, son approche. Et donc, le week-end, effectivement, je travaillais
dans une grande surface, que nous ne citerons pas.
Pour me faire des sous, pour payer mes cours de chant. Donc, je séchais la fac un vendredi sur deux pour pouvoir monter à Paris. Je faisais l'aller-retour dans la journée.
Ah, c'était juste l'aller-retour.
L'aller-retour. Ouais. Donc, c'était très rapide. J'arrivais gare de Lyon. J'allais là-bas dans le Marais parce qu'elle donnait ses cours à l'époque au centre de danse du Marais. Et c'était mon petit moment à moi le vendredi. J'avais l'impression là d'être... C'était fabuleux. Quand je me retrouvais dans le train et que je montais à Paris voir Armande, c'était le bonheur. Donc c'était des moments très...
Mais on voit toute la détermination déjà à ce moment-là, avec le fait de faire ces allers-retours pendant que tu travailles pour gagner ta vie, comme tu dis, le fait que t'as envie d'aller dans ce métier, tu sais peut-être pas quelle porte prendre à ce moment-là.
J'avais pas de connaissances, j'avais pas de piston, j'avais jamais participé à aucun casting. Et je me disais que ça pouvait m'apporter... c'était intéressant aussi de voir ce que l'on pensait de ma voix ailleurs que dans mon coin, que chez moi. Et c'est vrai que Armande n'était même pas au courant d'ailleurs que j'ai participé par la suite au casting. C'était mon seul unique casting puisqu'elle faisait pas partie du jury d'ailleurs, donc je lui avais même pas dit. Et je m'étais donné, on va dire, un an, deux ans, parce que la fac, il y avait quand même du boulot. Donc je m'étais donné un an, deux ans pour essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais comme j'avais très peu confiance en moi et que c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je me disais là, ça peut être une expérience enrichissante et ça a été le cas.
Alors à ce moment-là, je fais un survol, bien sûr. Il y a deux possibilités qui s'offrent. Il y a Scarlett, je crois, qui était un spectacle musical, et au même moment, un certain château que tout le monde connaît. Ce qui fait que l'image de Paris, finalement, puisque tu vas intégrer cette aventure, finalement, ce sera ce choix-là. Tu vas découvrir un Paris particulier entre c'est Damary-les-Lys, crois.
La vie de château à Damary.
Et la plaine Saint-Denis.
Absolument. Tout à fait. Ah, c'était ça. C'était le château à Damary, le week-end à la plaine. Donc, c'est pas forcément.
C'est pas vraiment Paris. C'est un peu le monde des bisounours dans un grand hangar, quoi.
Donc, les premiers mois de mon temps à Paris, c'était pas vraiment le Paris qui fait rêver. Le Paris magique, bien que le château était très très beau à Damary. Mais on va dire le vrai Paris, lorsque vraiment j'ai découvert Paris, c'est à ma sortie.
Là tu découvres un Paris showbiz, paillettes.
Là
Paris,
c'était dingue parce que la première nuit à la sortie au Royal Monceau, t'as l'impression d'être un peu Miss France, quoi. Là t'arrives et t'as dans cette suite au dernier étage dans laquelle j'ai passé d'ailleurs très peu de temps parce que comme j'étais tout le temps en interview, j'ai fait profiter mes cousins et ma famille
du
Royal Monceau qui est un hôtel, palace extraordinaire. Mais moi j'y ai passé très peu de temps.
Tu vas vivre où à ce moment-là parce que tu es pris en charge par...
J'ai vécu dans un, vous savez, dans les hôtels meublés. Ouais. Alors sur le quai des Grands Augustins. Donc mon premier moment à Paris seul, c'est quai des Grands Augustins, et qui est un endroit magnifique. Là, on est vraiment en plein cœur du Paris, du vieux Paris, à côté de Notre-Dame. Magnifique. Mais c'est vrai que je me sentais très seule parce que j'étais en studio. Enfin, les premiers mois, donc c'était que l'enregistrement d'album et ensuite la tournée. Donc on revenait comme ça, on faisait des petits sauts de puce à Paris, mais pendant l'enregistrement, c'est vrai que c'est un coin de Paris où, en plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait une vie de quartier à ce moment-là. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de touristes, et je me sentais que tu fais aller chercher un truc à manger, ou tout ça. J'étais un peu angoissée aussi à ce moment-là, parce que c'était tellement incroyable toute cette aventure, tellement populaire, où d'un coup tu sors et tu te retrouves après avoir été enfermé 4 mois dans un château. Tout seul dans un... C'était très bizarre. Donc, je veux dire que ces premiers mois qui étaient des Grands Augustins, c'était pas le meilleur moment de ma vie, même si j'étais certainement dans un des plus beaux coins de Paris, en vérité.
Alors, tu vas rester donc quelques temps là-bas, tu l'as dit, premier album, première tournée, la carrière est partie, commence et évolue. À quel moment tu vas quitter donc ce quartier pour t'installer peut-être dans un vrai chez-toi?
Alors, très vite, j'ai vite compris que que j'allais pas retourner à la fac et que, ouais, que ma vie allait être quand même à
T'as
Paris.
T'as mis du temps avant de te le dire, quand même.
Oui, mais moi, tu sais, je vois toujours le verre à moitié vide. Donc moi, je me disais toujours, il faut toujours avoir un plan B, il faut faire attention, il faut pas s'emballer, il faut pas s'enflammer. Tout est à construire. Et j'avais raison, d'ailleurs. Hein. Mais je savais que ça allait prendre du temps, mais quand même, il allait falloir que je reste quand même globalement, enfin, ma base serait Paris, parce que le boulot est ici. Donc je me suis dit, bon, dans un premier temps, je suis partie chez le cousin de ma maman qui m'avait prêté un appart en attendant, parce qu'en
fait,
c'était dans le 9e et c'était près de la rue Lafayette, Square Montholon. J'étais pas du tout à Paris, en fait, jamais, puisqu'on était en tournée pendant des mois à l'époque avec la Starac. Donc c'était vraiment, on avait un jour off par semaine à Paris, donc c'était vraiment, voilà, j'étais jamais là. Et c'est par la suite où je me suis dit, bon voilà, il faut trouver un endroit. Si j'ai un petit peu de sous à investir, ça doit être dans un appartement à Paris, parce que là, c'est une nécessité absolue. Et c'est là où je suis devenue une fille du 18.
Ouais.
J'ai jamais quitté ce coin parce que, en fait, je sais pas, il y avait quelque chose de réconfortant. Je sais pas si c'est la butte Montmartre ou quoi, mais il y a un
village.
Côté un peu feng shui, oui, ouais. Tu sais, où qu'il a la butte comme ça qui nous protège.
Fois,
mais oui, la butte qui te protège, je sais pas. Tu vois, il y a un côté réconfortant et rassurant dans ce quartier, effectivement, du village à Paris, où je retrouvais un peu quelque chose de plus humain.
Ouais, c'est les poules beaux, c'est les artistes,
c'est les petits troquets,
des cafcons, c'est des fêtes jusqu'à 3h du matin. Je sais que tu
exactement.
Je sais pas si t'étais grosse fêtarde, voilà. Mais t'aimes bien quand même. Aussi,
oui, non, moi pas grosse fêtarde, mais ce que j'aime, oui, non, moi c'est vraiment le quartier du Moulin Rouge, de Pigalle, Blanche, Pigalle. Moi je suis, voilà, entre le 9 et le 18, donc voilà, j'ai vraiment... j'adore ces deux arrondissements et j'aurais pas pu rêver mieux. C'était le destin, ça devait être mon quartier.
Mais tu vis toujours là-bas aujourd'hui ou tu...
Ouais, j'ai toujours mon endroit là-bas c'est vraiment je pense pas que je bougerais vraiment de, enfin, c'est vraiment j'ai eu la chance d'être marraine des vendanges de Montmartre il y a quelques années avec mon pote Thomas Dutronc c'est un coin à part pour moi, le 9 et le 18, mais bon, le 18, ouais.
Alors, Nol, à un moment donné, tu prends quand même le temps de découvrir, tu t'installes à Montmartre, tu l'as dit, alors bien sûr, les tournées, les enregistrements, les albums, la télé, ok. Mais il y a bien un moment donné où tu commences un peu à te poser, à découvrir, à voir des amis, à créer aussi peut-être des relations. Qu'est-ce que tu découvres de Paris? Où est-ce que tu as envie d'aller à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un musée comme ça où tu te précipites?
Est-ce qu'il y a un musée...
Bien sûr, tous les
plus grands musées, mais moi j'adore les musées du 9e. Tu vois, par exemple, j'étais passionnée par Gustave Moreau. Mm-hmm. Et le musée Gustave Moreau dans le 9e qui est magnifique. Le musée de la vie romantique aussi que j'adore. J'adore aller passer du temps là-bas, même en terrasse, boire un petit coup là-bas aussi, parce qu'il y a une terrasse cachée, des regards qui est magnifique aussi. Tous ces petits coins du 9e aussi qui sont incroyables. Tu sais, quand tu vas sur Google Maps où tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, tous ces petits coins cachés du 9e où tu vois qu'il y a des arbres, il y a des petits jardins, des petits parcs cachés. Moi, c'est ça que j'adore aussi dans mon quartier.
Tu as une vraie vie de quartier quand tu es sur Paris?
Ouais. J'adore. Et puis le musée Gustave Moreau, c'est magique parce que c'était sa maison. Donc, c'est un des rares peintres qui a pu organiser en fait son musée avant sa mort, en fait, qui avait déjà pensé à la suite. Et il y a toutes ces peintures que moi j'adore, qui reflètent tellement, tout ce qui moi me fascine et tout l'univers, je dirais, qui accompagne même mes projets depuis le début de mon parcours. C'est toute l'imagerie. Ça me parle Gustave Moreau.
Toutes ces premières choses que tu as envie de découvrir, tu es quelqu'un d'étré, tu es quelqu'un qui aime la culture, qui aime la peinture. Donc c'est ce Paris-là d'abord peut-être que tu as envie de découvrir.
Ah, moi c'est ce Paris-là, bien sûr. Ma maman était étudiante à l'école du Louvre.
Muriel.
Elle connaissait aussi bien Paris. Elle est montée pareil à ce moment-là pour faire ses études. Et c'était aussi le Paris de la culture. Donc moi, c'est à travers elle aussi que j'avais découvert Paris, tout ce qu'elle me racontait justement, tout ce qu'elle faisait à ce moment-là. Donc c'est ce Paris-là qui m'attire, c'est le Paris de la culture, le Paris de la découverte. Et c'est vrai que... Mais qu'on a aussi, bien sûr, en province, bien sûr qu'on a accès, heureusement, à la culture, à des endroits fabuleux en province. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a une diversité, ça tourne tout le temps, en fait, notamment les expos, les concerts, bien sûr. Moi, essentiellement, je montais à Paris aussi pour voir les concerts lorsque j'en avais possibilité. Bon, c'était beaucoup d'économies à chaque fois, mais ça valait le détour. Et
alors, si tu veux, on va se dire un petit mot sur les salles, parce que tu es venu assister à tout un tas de concerts quand tu étais plus jeune. Tu l'as dit, tu t'es saigné aussi pour venir voir des gens comme Cabrel que tu adores ou d'autres. Ouais. Et en arrivant à Paris, bah, c'est toi qui vas jouer, c'est toi qui vas découvrir ces salles qui sont mythiques. Parle-moi de ces endroits que tu vas découvrir. Alors, ça va, bah, j'imagine, de l'Olympia en passant par des salles encore plus grandes.
Bah, c'était l'Olympia, oui, c'est vrai que c'est fou parce que. À la fois, j'ai eu un parcours atypique. J'ai pas commencé par les toutes petites salles, petit à petit, et direct mon premier concert à l'Olympia avec ton nom en lettres rouges.
Déjà à l'époque, c'était la tournée des Zéniths au tout début, donc c'était des grandes salles.
C'était à la fois grisant et extraordinaire, et à la fois terriblement angoissant et moi qui m'angoisse assez facilement, c'est vrai, c'était le fait de se retrouver comme ça dans des grandes salles alors que tu démarres ta vie d'artiste, ce n'est pas rien. Donc voilà, j'ai ce souvenir là où c'était beaucoup d'émotions et de sensations et de mélanger, en fait. C'était assez, mais c'était un peu vraiment le cas globalement d'ailleurs au début aussi. C'était mon parcours à mes débuts, c'était ça, c'était à la fois le bonheur de pouvoir te faire entendre et de chanter tes premières chansons à un public, et puis à la fois l'angoisse de pas être à la hauteur, de dire mais c'est trop vite, enfin pas trop vite parce que finalement ça a mis du temps, mais entre le moment où tu te fais connaître et le moment où tu accèdes à ça, c'est voilà, il y a une fulgurance qui n'est pas humaine, quoi. Tu peux pas te préparer à cela, et heureusement que tu ressens ça, parce que c'est pas la normalité. Donc forcément, c'est...
Quelles sont les salles qui t'ont marqué? On vient de parler de l'Olympia. Est-ce qu'il y a des salles particulièrement qui t'ont marqué où tu as joué?
L'Olympia, c'est vraiment... J'adore cette salle. J'adore tous les gens qui travaillent à l'Olympia. C'est vraiment... C'était la famille, Arnaud, qui était à l'Olympia, et Brigitte. Enfin, à chaque fois, c'était vraiment... C'était presque une scène sur laquelle je me sentais presque trop à l'aise, parce que je me sentais... Il y avait vraiment quelque chose de rassurant pour moi. Lorsque je me retrouvais à l'Olympia, je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver. Et c'était, il y avait quelque chose de très chaleureux et de très voilà, rassurant, comme je te le disais. Après, par exemple, voilà, à côté de chez moi, j'adore la Cigale et le Trianon, parce que c'est la chance de pouvoir jouer au pas de ma porte. Quoi. C'est sur le pas de ma porte, j'arrive à pied.
Tu vas en pyjama.
Voilà, absolument. Voilà, c'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire que vraiment, je suis voisine. Donc,
j'adore. Le Théâtre des Abbesses, qui n'est pas très loin.
Le Théâtre des Abbesses, bien sûr.
C'est pas de chez toi, ça aussi.
Magnifique aussi. Tous les petits coins aussi, tous les petits théâtres, toutes les petites salles cachées du 18 aussi, qui sont magnifiques. Mais voilà, c'est vrai que l'Olympia, forcément, a une place toute particulière dans mon cœur.
Il y a deux lieux mythiques. Il y en a un que tu as découvert hier. Je pense aussi en 2015 avec l'hommage qui avait été rendu, c'était dans la Cour des Invalides. Deux lieux, le Panthéon et la Cour des Invalides. Est-ce qu'on peut se dire un mot sur la Cour des Invalides, sur ce que tu as vécu ce jour-là, sur ce que tu as découvert aussi de cet endroit à Paris, que tu connaissais peut-être pas d'ailleurs.
Non, la Cour des Invalides, non, ça c'est sûr que je... C'était un moment qui ne ressemble à aucun autre dans une vie, et qu'on n'a pas envie de vivre jamais, et qu'on ne peut pas imaginer un jour pouvoir, enfin, à un moment donné, chanter dans de telles circonstances, dans un tel lieu. Donc c'est sûr que je ne l'ai pas découvert de la meilleure des façons. Oui. C'est un moment qui reste gravé, bien sûr, à jamais, et marqué. On est tous marqués. On le sera tous... comme les Américains sont marqués par le 11 septembre, nous, c'est en chacun de nous, on sait tout ce que l'on faisait ce jour-là. On a l'impression, en fait, je me suis retrouvée là-bas ce petit matin glacial. J'ai du mal à exprimer, en fait, ce que je ressentais à ce moment-là, parce qu'en fait, tu sors de ton corps un peu, mais c'est un peu ça presque. En fait, c'est-à-dire que tu t'abandonnes en fait à l'instant et à ce que tu es en train de vivre et à l'hommage que tu es en train de rendre. Tu viens plus en tant que personne, en tant que chanteuse, tu viens juste avec ta voix comme vecteur d'émotions et de partage, à un moment donné de communion, dans un moment qui est indescriptible, indicible. Donc voilà, donc sincèrement...
On a tous gardé des images, évidemment,
je crois que c'est
de cet endroit.
Des sensations, mais J'ai pas, voilà.
C'est... Alors, je t'emmène dans le sourire. Hier, ouais. Tu as rencontré Sting. C'est pas ouais. La première fois que vous vous rencontrez.
Non.
Mais tu as découvert le Panthéon.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu as découvert?
C'est le lieu que, devant lequel tu passes, puisque les locaux d'Universal Music et ma maison disque sont juste à côté. Donc, là aussi, c'est un endroit dans lequel je passais beaucoup de temps depuis mes tout débuts. Donc, je suis passée des milliers de fois devant ce Panthéon. Et je n'avais jamais eu l'occasion de rentrer et de pouvoir effectivement rentrer, assister à ce petit showcase de Sting à l'occasion des 50 ans.
De FIP.
C'était extraordinaire, cet événement-là, de l'entendre, sa voix résonner dans ce lieu.
Mais ça t'a fasciné parce que tu me montrais les photos.
Ah ouais, totalement. Mais j'étais fascinée parce que je me suis retrouvée à un moment donné dans la crypte, en fait, toute seule. Et c'était vraiment, c'est quand même dans un lieu où tu as les grands hommes, et tu défiles comme ça devant ce lieu de silence et de repos, avec les noms de Jean Moulin, de Simone Veil, de Rousseau, de Voltaire. C'est quand même un lieu t'es complètement, tu te sens tout petit dans ce Panthéon.
Ça fait
ces grandes femmes.
Ça fait des années qu'on doit aller déjeuner ou dîner, ou bruncher, je ne sais pas ce que tu veux. C'est l'occasion de découvrir un peu. Ouais, voilà, par exemple. C'est l'occasion de découvrir les bonnes adresses de Nolwenn Leroy dans Paris. Alors, j'imagine.
Moi, je suis gourmande en plus. Alors, ouais. Là, c'est.
Alors, j'ai
une
sœur
qui est pâtissière.
Alors, évidemment.
Forcément, moi, je suis une spécialiste des pâtisseries.
Mais tu l'aimais où?
Ah ben, je peux te dire que... Ah oui, non, moi, là, je suis partie des chanteuses qui mangent, hein, je te le dis, j'adore ça. Et
non,
j'adore,
des chanceuses qui mangent.
Et des chanceuses, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est un plaisir pour moi. Et non seulement parce que ma petite sœur me fait elle-même des pâtisseries, donc je dois goûter. Hein,
elle était pâtissière pour Matignon.
Oui, elle a passé, oui, effectivement, son CAP à Matignon. Mais...
Alors tu nous emmènes où là?
Mais
on va
là
déjeuner,
je t'emmène quoi? Alors dans le 18, bon bah déjà chez moi, je t'emmènerai chez Gilles Marchal, rue de Ravignan. Gilles Marchal, bon, moi je suis une grande amatrice, ces Madeleines de Proust dont je te parlais tout à l'heure, de souvenirs d'enfance, mais donc des Madeleines aussi, de la vraie Madeleine, fourrée aussi, tellement délicieuse. Voilà, c'est un grand pâtissier et moi j'adore ces Madeleines. Donc Gilles Marchal, je te parlais aussi de...
Non mais là c'est pour le thé.
D'Arnaud Larère aussi, Larère que j'adore, c'est dans le 18, qui est meilleur ouvrier de France, qui est un spécialiste aussi du chocolat, donc voilà, il faut y aller absolument. Et puis, par ailleurs, des petits coins où manger, forcément moi comme je suis voisine, voilà, ça fait depuis que je suis là-bas, depuis 20 ans, que je vais chez Rose Bakery, parce que j'adore Rose Bakery. Depuis les tout débuts, c'est rue des Martyrs. Depuis qu'elle a ouvert, c'est vraiment la cuisine à l'anglaise. Alors, c'est à emporter ou manger sur place, mais c'était mon QG pendant des années. Enfin, souvent à emporter, parce que j'avais pas trop le temps de cuisiner. Et tout ce qu'on mange là-bas, tout est bon, tout est réconfortant, et tout est délicieux, tout est savoureux. J'adore Rose Bakery depuis, elle a grandi, elle a ouvert au Bon Marché, elle a ouvert, mais elle a ouvert aussi au Musée de la Vie Romantique, justement, sur le petit salon de thé dont je te parlais tout à l'heure. Mais l'adresse d'origine, c'est l'adresse rue des Martyrs, et ça reste un endroit où j'ai toujours traîné mes guêtres, comme on dit.
Alors, t'es bretonne, tu adores les crêpes, on va un peu dans le stéréotype, mais est-ce qu'il y a une bonne crêperie bretonne parisienne?
Bonne crêperie bretonne parisienne, écoute... Moi, je te dirais le Brest Café, parce que moi, j'ai commencé, à l'époque où le Brest Café, il n'y en avait pas beaucoup dans Paris, il y avait celui dans le Marais, et c'est vrai que j'adorais les crêpes là-bas, et puis surtout la façon de finalement, le fait qu'il y ait aussi cette adresse au Japon, et cette communion entre le Japon, la Bretagne, enfin, il y avait quelque chose de très intéressant, et les crêpes sont délicieuses, moi, je prenais toujours la même d'ailleurs, je trouve toujours la même.
C'est quoi?
Crêpe confit d'oignon, andouille de guéménée, ah ouais, la totale, complète, andouille de guéménée, confit d'oignon,
cidre, confit d'oignon, cidre. Moi, je pense que je n'ouvre plus la porte, là.
Ah non, mais moi, là, c'est la totale. Et en dessert, alors par contre, c'est terrible, parce que, en fait, à chaque fois que je retourne, et même chez mon pote Yvan en Bretagne, qui a sa crêperie aussi, là, le Maine-Landue, la carte à boîte dingue. Je vais toujours prendre la même crêpe. Ou alors celle aussi aux langoustines. J'adore la crème de langoustine. Mmh. Quand il y a un arrivage langoustine. Ouais, ouais. Mais quand c'est la période. Mais c'est vrai qu'en dessert, moi, je suis toujours miel citron. Ouais, je suis même pas caramel beurre salé et tout. Mais c'est miel citron. J'ai toujours, c'est bon pour la voix, tu vois. Donc en plus, je dis ça. J'ai dit, non, je vais quand même prendre la miel citron parce que non, j'ai plus faim, mais c'est bon pour la voix.
C'est pour se donner bonne conscience.
Exactement. Donc ouais, ouais.
Et on va puis, pas casser du crabe un peu.
Ah bah si, on casse du crabe au crabe marteau parce que ça, c'est aussi
dans
une
17,
adresse.
Ça,
dans le 17. Exactement. Et c'est parce que souvent tu te dis, moi j'adore aller manger des crustacés dans les grandes brasseries aussi. J'adore les grandes brasseries parisiennes. Mmh. Parce que je trouve que pour moi, Paris aussi, c'est ça. C'était chez Bofinger, c'est la brasserie Lorraine, c'est toutes les grandes brasseries anciennes avec cette déco. Ouais, totalement.
Pour la Lorraine.
Bofinger, c'est à Bastille. Mais toutes ces brasseries qui, moi, m'évoquent aussi le Paris d'antan, la mascotte aussi, bien sûr, aux abeilles. Je suis obligée de parler de la mascotte parce que ça aussi, c'est mon QG. J'adore aller manger des huîtres là-bas. Enfin, c'est vraiment un endroit où je passe beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est pour moi, Paris, c'est ça aussi. Le moulin de la Galette aussi, où j'allais.
Bien sûr.
Voilà, c'est tous les coins vraiment historiques parisiens parce que c'est ça aussi, pour tous les gens qui viennent de province, c'est ce que ça m'évoque, Paris. J'adore. Donc, au crabe marteau, c'est vrai qu'il y a ce côté où tu peux plus te permettre de casser le crabe en pensant moins à tes vêtements, à tout ça. Tu vois, parce que quand t'es à la brasserie, quand même, tu fais un peu attention, tu restes quand même un peu. Tu vois. Là, au crabe marteau, tu peux aller full crabe, quoi. Tu fais la totale, tu mets ton bavoir, t'as ton seau, et t'y vas. Non, mais tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu à Paris où tu te dis, oh là là, non, on va peut-être pas prendre des crustacés parce qu'on va en mettre partout. Non, là, moi, quand je suis au crabe marteau, je suis comme à la maison. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'ils ont leur propre. Enfin, ils ont leur propre approvisionnement et c'est vraiment selon l'arrivage. Ils fournissent directement en Bretagne. Ils ont aussi le crabe marteau qui est à Brest. Et quand il y a des ormeaux, il y a des ormeaux. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, voilà, t'as pas des langoustines ou des ormeaux quand c'est pas la période. Et ça, j'aime bien aussi.
Bon, là, on a plein de bonnes adresses en tous les cas.
Ouais,
là,
ouais,
franchement, avec
clair.
Tout ce que tu viens de donner. Tu viens de parler de bavoir. Alors, je pense à ton fils, même s'il commence à être grand.
J'aime bien
mais
le petit bavoir.
Encore des bavoirs. On va aller faire un tour au jardin d'acclimatisation.
Ah, d'acclimatisation, oui, oui.
Ça, pourquoi c'est tu m'expliques pourquoi d'acclimatisation?
Ah, parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi en province, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, mon fils, il passe beaucoup de temps en Provence et en Bretagne, mais on passe beaucoup de temps à Paris, puisqu'il est scolarisé ici quand même, et il faut trouver des trucs à faire avec les enfants à Paris. Il y a des trucs à faire, mais c'est vrai que bon, quand tu veux un peu prendre l'air et cavaler, moi j'adore le musée d'histoire naturelle de Paris parce que c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps à l'époque d'histoire naturelle aussi, la ménagerie. J'adore. En plus, lui, il est passionné par les dinosaures, donc. Voilà, je l'emmène à la grande galerie d'évolution. Là, et c'est un endroit magnifique, le jardin des plantes. Mais c'est vrai que le jardin d'acclimatisation, comme lui, c'est lui
c'est
qui
comme
dit ça,
qu'il l'appelle.
En fait. Il l'appelle jardin d'acclimatisation. J'adore ça. Et c'est un endroit aussi très, très sympa et pour prendre l'air aussi à Paris. Donc j'y passe aujourd'hui beaucoup, beaucoup de temps.
Est-ce que tu as déjà pris des bateaux? Quel rapport tu as avec la Seine? Est-ce que tu aimes te balader sur les quais?
Alors moi, je suis une fille qui aime le bateau, mais c'est vrai que bizarrement, j'ai pas eu l'occasion.
Non.
Ben non.
Jamais un bateau mouche, une croisière.
Eh ben non.
Je vais t'y inviter.
Mais non, mais je te dis. Et pourtant, dans mon métier, j'aurais pu avoir plein de, tu sais, d'occasions, de
concerts,
petits concerts,
bien
de trucs.
Sûr.
Je l'ai fait une fois, si j'ai eu la chance d'être invité par Alain Ducasse aussi, parce qu'on parlait de très bonnes tables à Paris. Mmh. Et il a ce bateau, justement, qui pollue pas et qui est super sur la Seine. Et donc, c'était un très, 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 très beau moment. Donc c'était mais je dois te dire que c'est la seule croisière, on va dire, c'est le temps d'une soirée, d'un repas, tu te balades sur la Seine, c'était très agréable, mais autrement je ne l'avais jamais fait, jamais. Donc
c'est fou.
Non, j'ai encore plein de trucs à découvrir.
Ce qui est intéressant, ce qui est avec les croisières, c'est soit on les fait de jour, soit on les fait de nuit, on découvre les choses complètement différemment. Mm-hmm. Est-ce que tu préfères Paris de jour ou de nuit? C'est pas la même chose. Hein.
Alors
je parle pas du Paris de nuit, 5h du matin, sortie de boîte.
Moi, c'est un truc de dingue parce que. Mais comme beaucoup de gens, je pense aussi, qui sont de province, Paris, ça restera toujours. La fascination, comme je disais, la magie, c'est-à-dire que oui, parfois, je suis fatiguée de Paris, j'ai la chance de pouvoir. Avoir des endroits en Provence, en Bretagne ou en Auvergne pour aller respirer quand j'en ai l'occasion. Mais je ressens toujours ce bonheur quand. Tu sais, à la fois de partir quand t'es trop à Paris, que t'en peux plus et que t'as la tête farcie, que tu dis oh là là, j'ai besoin de partir de Paris.
Mais le retour à Paris, c'est toujours, c'est quand je rentre de la gare de Lyon, là, ou de Montparnasse, ou que t'es dans le taxi la nuit, et que tu vois Paris, tu sais, ce truc où tu passes la tête par la fenêtre et tout, en grand, là, la fenêtre du taxi, tu dis, mais quelle merveille, quelle chance on a de vivre dans cette ville extraordinaire. Des gens font des milliers de kilomètres pour venir voir ce que nous, on voit tous les jours. Et je suis sans cesse émerveillée par la beauté
la
de cette ville. Ah oui, oui.
Parce qu'il y a des gens qui ne regardent plus. Hein.
Ah non, moi tout le temps. Ah mais tout le temps, mais tu sais que dès que je passe, j'ai toujours la photo. Pareil pour Notre-Dame, pareil pour la... Dès que je passe sur les quais de Seine, je suis complètement émerveillée. Mais encore une fois, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai, je le ressens vraiment. Et,
Tu quitterais pas Paris, parce que tu l'as dit, t'as un pied d'attache, bien sûr, tes origines en Bretagne. Tu vis beaucoup dans le sud de la France, de temps en temps un petit week-end en Auvergne. Ouais. Paris, presque j'ai envie de dire pour le boulot, parce que ouais, tu es là.
Je vois par exemple mon compagnon n'a pas du tout ce ressenti là sur Paris. Ouais, pas du tout. Lui, il est content quand tu pars, il n'a pas cet attachement.
Lui, non, mais si le métier s'arrêtait complètement.
Moi, Paris, sincèrement, je pense que j'ai une part de mon cœur aujourd'hui qui est à Paris. J'ai vraiment. Je tire une énergie de Paris, et comme l'on tire des grandes villes aussi, tu sais, quand tu pars à New York aussi et que tu sais, c'est cette énergie le matin quand tu arrives très très tôt au petit matin et que tu sors dans la rue et que tu sais cette énergie des grandes villes et à la fois aussi de l'histoire, parce que d'être comme ça entouré d'histoire tout le temps, et moi c'est ce qui me fascine aussi, parce que j'aime la mémoire des murs lorsque je me rends dans un lieu, et à Paris je sens ça tout le temps, n'importe quel mur, n'importe quel endroit, n'importe quel, tu sais, je suis très
lu le bouquin de Laurent Deutsch.
Laurent Deutsch, c'est Stéphane Bern, idoles absolues. Moi tout ce qui est l'histoire, toutes les, et c'est vrai que j'adore ça, être tout le temps dans des lieux qui sont tellement chargés d'histoire, et ça je le ressens très très fortement, cette énergie là c'est très palpable pour moi, vraiment.
Est-ce qu'il y a une chanson qui symbolise bien Paris pour toi? Quelle est la chanson
C'est Dutronc, Paris, bah oui.
Laquelle, Dutronc?
Alors non, c'est marrant parce que...
Thomas ou Jacques? Parce qu'attends, Paris...
c'est dur, c'est dur là comme question.
Je sais que t'es pote avec Thomas,
mais... Bah oui, les deux, c'est un dissociatif, mais...
Donc J'aime plus Paris et Paris à 5 heures.
Non, c'est J'aime plus Paris quand j'ai trop bossé, que je te dis que j'ai la tête farcie, mais c'est quand même Dutronc, c'est Dutronc. Mais c'est, tu sais, c'est marrant, le jour où j'ai acheté un livre justement à mon fils, là-dessus, c'est les plus belles chansons de Paris, et quand tu l'ouvres, tu appuies, tu sais, les livres qui font la musique.
Oui.
Et puis il s'allume et tout, alors à chaque page, alors il y en a une à Paris, tu sais, la chanson de
Paris à vélo, Joe Dassin.
À Paris à vélo, on dépasse les taxis.
Les autos.
À Paris, on dépasse les taxis.
Et c'était notre premier duo.
Il y a celle-ci, il y en a plein, et j'adore ce livre parce que vraiment toutes ces chansons, et justement, il y a Paris s'éveille, forcément.
Quelle déclaration tu pourrais faire à Paris si tu pouvais lui parler? D'ailleurs, tu peux lui parler.
Quelle déclaration Après, non, mais c'est drôle ce que tu me dis. Enfin, c'est pas drôle. Je veux dire, je reviens, je suis désolée, je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure. Parce qu'aussi, Paris, c'est la dualité aussi entre cet émerveillement et aussi la dureté aussi de la ville. Comme je te parlais des enfants, des personnes âgées, mais aussi de la misère aussi. Tu sais, je soutiens la Fondation Abbé Pierre depuis ma rencontre avec l'Abbé Pierre. Et
très
c'est aussi
engagé,
ça.
Beaucoup.
C'est important de le dire parce que Paris, c'est cette dualité aussi qui est entre la. L'émerveillement, la magie de Paris, et à la fois les choses très difficiles, tout ce que ça, qui est en bas de chez toi aussi. Et donc c'est ça aussi Paris pour moi, parce que voilà, là on est dans quelque chose de très positif et tout, mais ce n'est
mais
pas que
sûr.
Ça, on est quand même obligé d'en parler.
Tu t'occupes de la défense des phares en Bretagne, il y a les restos, là effectivement il y a eu l'abbé Pierre que tu as eu la chance de rencontrer, et on sait à quel point tu es engagé à différents
bien
niveaux.
Sûr. Parce qu'il y a ce côté cliché qui ressort tout le temps et que tout le monde va te dire, bien sûr, mais on est quand même obligé de, on ne peut pas passer à côté de ça, parce que mais c'est ce qui fait aussi que l'on s'émerveille aussi, qu'on a besoin de ça, parce que Paris aussi c'est dur et c'est pas aussi facile pour tout le monde. Pour vivre à Paris et je pense aussi ressentir cet émerveillement, il faut avoir des conditions de vie et un certain niveau de vie qui rendent les choses beaucoup plus simples, mais Paris c'est pas l'émerveillement pour tout le monde.
Merci beaucoup pour cette balade en Paris,
on pourra en parler
plus longuement, mais on a découvert un Paris différent, le tien, celui de Nolwenn Leroy, qui nous a emmené dans plein de quartiers depuis les débuts sur les quais jusqu'au 18e, le 17e. Merci beaucoup pour cette
balade,
Nolwenn.
Merci beaucoup, merci Eric.